Ça a commencé dans les années 60 avec le gouvernement Malraux et les maisons de la culture. Ça a été aussi le grand élan de Jean Vilar avec la culture pour tous, partout et l'accès de chacun à l'œuvre et la constitution des maisons de la culture un peu partout en France, dont la première était à Amiens, 1957, je crois, avec un modèle de présentation de l'œuvre et de l'art partout où c'est possible en France.
Donc on se souvient en région, Nord-Pas-de-Calais, notamment du TPF, le Théâtre Populaire de Flandre, hein, avec à l'époque l'irrigation du théâtre à Lille.
Oui, c'est vrai, oui. Et j'ai aussi eu l'occasion de vivre dans une structure qui en a poursuivi le modèle, bien qu'en n'en ayant pas les moyens d'État, puisque à l'Escapade et Hénin-Beaumont, tout comme à Lens d'ailleurs, il y a eu des structures qui poursuivaient ce modèle. En fait, on peut dire que l'époque de Malraux a induit une certaine idée des équipements et des projets culturels en France par rapport à l'œuvre et à l'artiste. Évidemment, ça a été une époque qui a été suivie d'autres étapes dites de la décentralisation. Il y a trois actes après Malraux. Le second, c'était avec les lois Defferre en 1982, qui a permis à l'administration française de, on va dire, déléguer, en tout cas transférer des compétences aux départements, aux régions et aux villes, la création des régions à ce moment-là, le fait que ce soit plus les préfets qui soient les gouverneurs des départements, mais bien des institutions publiques, rajouté au fait que les lois Defferre ont créé la possibilité d'une clause générale de compétence, le fait de démocratiser les collectivités territoriales avec des élus qui votaient des budgets, de conférer, en tout cas transférer des compétences au département. À l'occasion, c'était les archives et la lecture publique. À la région, c'était l'inventaire des monuments historiques. Ainsi que leur donner la possibilité aux collectivités de prendre une forme de liberté de l'action culturelle dans leur territoire de référence a considérablement fait évoluer les choses.
Ce sera comme pour les congés payés. Quand ils ont été présentés à l'Assemblée nationale, vos prédécesseurs de droite ont annoncé qu'ils allaient ruiner l'économie française et qu'il faudrait y revenir. Quel est celui d'entre vous aujourd'hui qui oserait dire qu'il faut supprimer les congés payés? Dans quelques années, non seulement vous ne proposerez pas de revenir en arrière, mais vous proposerez des moyens nouveaux pour accroître, si c'est possible, les libertés que nous donnons aux élus.
L'étape suivante, c'est la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales, le 13 août 2004. Sous le gouvernement Raffarin, avec les schémas départementaux d'enseignement, où là, les départements ont eu à poursuivre l'idée d'harmoniser l'enseignement artistique dans une définition des conservatoires, les conservatoires à rayonnement communaux, les conservatoires à rayonnement intercommunaux et régionaux, autour de la musique et de l'art dramatique.
Donc là, vient d'arriver dans le paysage Nord-Pas-de-Calais. En territoire, j'allais dire ex-bassin minier, le Louvre-Lens, comment ça s'inscrit dans le paysage? C'est quand même relativement atypique comme formule.
Ben, le Louvre-Lens est l'enfant, on pourrait dire, de cette histoire. Il est novateur et il poursuit une forme d'idéal. Le Louvre, en tant que tel, est un équipement internationalement connu. Il poursuit une certaine idée de la conservation du patrimoine et de démocratisation de l'œuvre auprès du public, et il vient le donner, il vient le transmettre comme un concept aujourd'hui sur un territoire qui n'est pas celui de la capitale. En ça, c'est, je pourrais dire, une continuité, en tout cas un continuum de l'intention de l'époque de Malraux, à ça près que viennent s'ajouter une réflexion croisée sur le concept avec les autres collectivités qui financent ou qui viennent soutenir le projet, que sont la région et le département du Pas-de-Calais.
Donc au-delà du Louvre-Lens, il y a aussi des irrigations, on va dire, qui viennent d'autres structures nationales qui proposent dans les régions des événements.
Bien sûr, on trouve des équipements dits labellisés qui, eux aussi, ont des financements croisés et des projets culturels partagés avec des axes de développement culturel que les collectivités défendent. On a les centres dramatiques nationaux, les scènes nationales, les SMAC, scènes des musiques actuelles. Tous ces équipements ont un cahier des charges, une mission d'État à produire à l'échelle de l'État dit décentralisé sur les territoires. Et effectivement, en financement croisé, en acceptant, en absorbant l'idée que la culture se partage et ces financements croisés sont utiles à continuer une forme de décentralisation jusqu'à avoir des équipements qui poursuivent eux aussi ces objectifs et qui ne trouvent plus les financements de l'État, mais ceux des villes, des régions et des départements pour aller encore un peu plus loin dans les territoires, au plus profond des territoires de la France, on pourrait dire.
Si on prend le cas de Versailles, par exemple, qui propose à Arras de partager une exposition, rouler carrosse et la suite, hein. Là aussi on est dans ce champ.
Là on est directement permettre aux gens des territoires de toucher de plus près quelque chose qui est du patrimoine national et qui raconte notre propre histoire. C'est décentraliser une œuvre historique et nationale. Le fait de monter des expositions thématiques liées à l'histoire nationale, c'est une autre forme de décentralisation. Là, on pourrait parler d'itinérance de la connaissance culturelle nationale ou du patrimoine national. Il y a un enjeu de partage, de décentraliser les œuvres pour qu'elles aillent au plus près, effectivement, des populations.
Donc, dans quelques temps, il va encore y avoir du changement, j'allais dire du bouleversement dans les équilibres, dans les structurations du territoire. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée des échéances? Qu'est-ce qui va se passer prochainement?
Alors, il y a une nouvelle loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles. On appelle ça l'acte 3 qui est en train de se faire. Les choses sont effectivement en train de bouillonner, pour ne pas dire autre chose. Effectivement, on met à plat tout ce qui a été fait dans les étapes de la décentralisation dont on a parlé jusqu'à maintenant, pour permettre à chacun de se positionner ou se repositionner. On entend parler ici que les régions pourraient être tête de file sur des axes de prise de compétences en matière culturelle, mais évidemment, c'est à croiser avec les engagements déjà opérés et opérants, financiers, hein, j'entends, sur des projets culturels par les autres collectivités. Donc ça ne s'édicte pas, le développement culturel ou la décentralisation culturelle est déjà sur la base de financements croisés, et on ne peut pas décroiser ces financements sans rétablir des champs de compétences assumés pleinement, puisque c'est déjà des équilibres économiques existants dans les budgets des structures, dans les budgets des projets, dans les budgets des artistes qui reçoivent des financements croisés. Évidemment, si ça devait être le cas, la définition d'un chef de file ne devrait pas faire perdre l'ensemble des acquis qui ont été faits durant toutes ces longues années en définition des politiques culturelles. On pourrait aussi évoquer le fait qu'il y a une forme d'obligation de reconnaître que les frontières des territoires administratifs ne sont pas les frontières des territoires de vie et ne sont pas non plus les frontières de la création artistique. On comprend bien l'idée quand on se dit qu'un artiste, pour diffuser son œuvre, n'a pas besoin de frontières, ou il lui en faut le moins possible. Il doit être le plus libre possible pour montrer son œuvre le plus possible. Et évidemment, quand on approche les choses de cette manière-là, les politiques publiques de l'accompagnement ou du développement culturel pris sous ce prisme sont chacun à leur endroit, à l'endroit des territoires administratifs, dans un accompagnement affinant l'approche de à quel endroit, pourquoi faire. On veut accompagner un processus de création, un projet de résidence d'artiste pour la rencontre avec les populations. Et forcément, dans la réflexion à venir sur la loi de modernisation, sur la prise de compétences des métropoles en termes de compétences culturelles, il y aura de nouveau à évoquer ces problématiques et de ne pas trop forcer le trait, puisque des équilibres jusqu'à maintenant ont été trouvés en la matière. On pourrait dire que les métropoles et leurs usages dans l'existant déjà en place posent ou imposent un minimum nécessaire et suffisant pour continuer la décentralisation.
Il va y avoir prochainement des redécoupages au niveau de la carte des cantons. Est-ce que ça peut changer beaucoup de choses ou bien bon, c'est dans la continuité ?
Ça va changer beaucoup de choses, puisque si on parle du département du Pas-de-Calais, on va passer de 77 cantons à 39 cantons. Et évidemment, deux fois moins de conseillers généraux qui seront des conseillers territoriaux fortement féminisés aussi, puisque 50% de ces conseillers généraux seront désormais des femmes. Ça, c'est un changement non négligeable. Le découpage des cantons, de fait, lui aussi va changer, puisqu'on a presque deux fois moins de cantons sur le territoire départemental. Et à l'endroit des départements où il va y avoir des métropoles, c'est le redécoupage des compétences, notamment culturelles, qui devra se refaire, ou en tout cas se rediscuter, dans un partage de ces dites compétences et des financements publics à l'accompagnement des politiques volontaristes.
David Bercampin, merci. On peut dire que l'œuvre de la décentralisation est encore loin d'être achevée, alors.
Dès lors qu'elle s'est démocratisée, elle se fabrique à chaque instant et on pourrait porter encore plus loin l'utopie du développement culturel.